Mesdames et messieurs, chers amis, un des privilèges dont peuvent jouir ceux qui travaillent dans le champ des études théosophiques est celui de partager avec d'autres l'enthousiasme toujours croissant qui en résulte. Ceux qui viennent assister à nos réunions le font de leur propre gré, je l'espère, parce qu'ils ont déjà développé un intérêt aux idées qui sont à la base de nos programmes. Par conséquent, on n'a pas besoin, en présentant un thème, de commencer par persuader à l'assistance que le sujet mérite son attention. La seule chose nécessaire comme introduction à la conférence de cet après-midi est de vous expliquer ce qu'il faut entendre par littérature théosophique, ou plutôt ce que j'entends, moi, par ces mots, et ensuite de justifier mon emploi du mot « joyau » dans ce contexte. D'abord, littérature théosophique. Ce que j'entends par ces mots n'est pas moins que toute la littérature ancienne et moderne basée sur les principes fondamentaux de la philosophie ésotérique, autrement dit la théosophie. Cette philosophie, reconnue depuis les époques les plus lointaines, sous des noms qui diffèrent selon les circonstances, repose sur des connaissances établies par les expériences d'innombrables générations de voyants, de sages, de grands adeptes, les instructeurs spirituels de l'humanité. Que l'on étudie cette philosophie sous sa forme moderne, un siècle après tout, n'est plus qu'un clin d'œil auprès de l'histoire des enseignements ésotériques recueillis et transmis, par exemple, dans les chants védiques. Que l'on étudie sous sa forme moderne, c'est-à-dire surtout dans l'œuvre de Madame Blavatsky et de ceux qu'elle appelait ses maîtres, ou bien telle qu'on la trouve dans les anciens textes védantiques, les principes fondamentaux sont partout les mêmes. Ils se résument en peu de mots. Premièrement, elle enseigne un principe primordial, une seule réalité, la source de la nature, c'est-à-dire de l'existence tout entière. Deuxièmement, une loi immuable, invariable, éternelle, qui régit et pénètre le cosmos manifesté, de l'étoile à l'atome, du développement de l'individu au cours d'une vie de quelques dizaines d'années, à l'évolution de la conscience à travers les règnes successifs de la nature. Et finalement, l'identité de l'âme, c'est-à-dire de l'essence même de l'homme, qu'on la désigne sous le nom d'âme, d'esprit, de conscience ou de vie, l'identité de cette âme avec sa source, la vie universelle. Ces trois principes, unité, loi, identité, sont les idées de base, les fondements de la philosophie ésotérique. Il est évident que cet après-midi, il faudra nous contenter de ce simple énoncé des principes sans aller plus loin dans leur étude. Pour cela, nous aurions besoin non d'une seule conférence supplémentaire qui pourrait servir de prélude à celle de notre programme, mais d'un cours d'étude qui remettrait la conférence d'aujourd'hui à l'année prochaine. Par conséquent, je vous laisse ces trois mots clés de la philosophie ésotérique, unité, loi, identité, et je poursuis mon examen du titre « Joyau de la littérature théosophique » en vous expliquant ce que j'entends par joyau dans ce contexte. L'étude des principes fondamentaux nous révèle le squelette, l'ossature, pour ainsi dire, du système théosophique, la partie quelquefois invisible, mais toujours indispensable. Sans doute, les magnifiques stances de la cosmogenèse inspirent-elles l'étudiant sérieux. Mais les idées abstraites sont-elles capables d'influencer la vie quotidienne, comme elles éclaircissent indubitablement la compréhension philosophique de ce monde où nous sommes? Il faut remarquer que les enseignements abstraits ésotériques, les anciens aussi bien que les modernes, sont toujours, mais toujours accompagnés par une instruction morale et pratique sans équivoque. Nous en avons l'exemple bien connu de l'école de Pythagore. Je vais me référer plus d'une fois à cette superbe anthologie de la sagesse antique de l'auteur anglais Aldous Huxley, traduite en français sous le titre de « La philosophie éternelle », en anglais « The Perennial Philosophy », et j'ai bien vu un exemplaire dans la librairie à côté. Dans son introduction, il déclare « La connaissance est une fonction de l'être ». La connaissance est une fonction de l'être, c'est-à-dire la nature et la quantité de la connaissance d'un individu dépendent de la nature, du caractère, de l'être tout entier de cet individu. Et l'auteur explique en donnant deux exemples. Là où il y a un changement dans l'être de celui qui connaît, il y a un changement correspondant dans la nature et la quantité de la connaissance. À mesure que l'individu se transforme, une transformation se produit dans la façon de connaître et dans la quantité et le caractère des choses connues. Ceci est un fait qu'on pourra vérifier non seulement dans le cas de l'enfant qui se transforme en adulte par la croissance et l'éducation, c'est son premier exemple, ou dans le cas de l'astronome qui se transforme, pour ainsi dire, pour ce qui est de la vue, en surhomme par l'emploi d'instruments mécaniques, c'est son second exemple, mais aussi, et c'est ici le point essentiel de sa thèse, dans le cas des sages et des saints de toutes les époques et de tous les coins du monde. Ces hommes et ces femmes ont élu de se transformer et se sont qualifiés ainsi pour connaître de première main la suprême vérité de la vie intérieure, la réalité une et divine. Car comme l'explique Huxley dans son brillant commentaire, la nature de cette réalité unique est telle qu'elle ne peut être appréhendée directement et immédiatement si ce n'est par ceux qui ont élu de remplir certaines conditions. Par conséquent, et voici comment il termine son introduction, si l'on n'est pas soi-même un sage ou un saint, et jusqu'à présent je crois ne pas être qualifié ni comme sage ni comme sainte, ce qu'on peut faire de mieux dans le domaine de la métaphysique, c'est d'étudier les œuvres de ceux qui l'ont été et qui, parce qu'ils avaient modifié leur mode d'être simplement humain, étaient capables d'une qualité et d'une somme de connaissances plus que simplement humaines. Mes joyaux, donc, j'en suis toujours à mon titre, sont les vers, les phrases, les paragraphes parfois qui m'ont frappé et que j'ai recueilli au cours de mes études dans le champ de la théosophie. Ces morceaux choisis, copiés et recopiés dans mes carnets et souvent appris par cœur, la plupart en anglais naturellement, mais quelques-uns aussi en français, ont été pour moi non seulement une source d'inspiration et de compréhension, mais aussi un appui, une ligne de sauvetage dans les périodes de difficultés et de peines qui nous aident, qui nous obligent plutôt à apprendre, à mûrir et à rompre les chaînes psychologiques qui gênent notre progrès intérieur. Partager mes trésors avec mes amis ne fait que les augmenter. Et j'espère que ce partage sera pour vous une heure qui vous rappellera vos propres joyaux de la littérature théosophique et peut-être aussi une heure qui ajoutera quelques nouveautés au coffret de vos bijoux. J'ai déjà cité quelques phrases de l'introduction à l'anthologie de Huxley, qui est à elle seule un puits insondable de pierres précieuses. La première phrase de cette introduction est à mon idée un sommaire sans pareil de la philosophie ésotérique, qu'il résume ici sous ses trois aspects de métaphysique, de psychologie et d'éthique. J'ai suggéré au début que les trois idées de base du système théosophique peuvent s'exprimer par les mots unité, loi, identité. La vie unique dont tout émane, les processus de la manifestation régis par la loi universelle et l'identité de l'homme dans son essence avec sa source. Voici cet admirable sommaire de la philosophie éternelle sous ses trois aspects. La métaphysique qui reconnaît une réalité divine, substantielle au monde des choses, des vies et des esprits. L'unité. La psychologie qui trouve dans l'âme quelque chose d'analogue ou même d'identique à la réalité divine, c'est l'identité. L'éthique qui place la fin dernière de l'homme dans la connaissance du fondement immanent et transcendant, ce qui implique l'évolution régie par la loi. Cette chose, dit-il, cette philosophie éternelle est immémoriale et universelle. Immémoriale parce qu'elle remonte aux époques les plus lointaines et universelle parce que, comme le prouve le choix d'extrait, elle se rencontre dans les traditions et dans les écrits sacrés de tous les peuples de la terre. Ensuite, je parle de l'éthique. On ne saurait répéter trop souvent la nécessité qui s'impose à celui qui désire poser les pieds sur le chemin de la connaissance directe, c'est-à-dire à celui qui cherche sérieusement à apprendre de première main les vérités transmises par les instructeurs spirituels de l'humanité, la nécessité de commencer par un changement radical de son être, de son caractère et de sa mode de vivre. Le véritable chemin du yoga commence non par les postures photogéniques des asanas, mais par la triple discipline préliminaire du Kriya Yoga, le yoga préparatoire, vie soumise au contrôle de la volonté, étude de soi à la lumière des Saintes Écritures et un effort soutenu pour se consacrer entièrement à l'idéal. Et voilà où je voulais en venir. Dans son commentaire sur le rôle de la moralité dans la vie du yogi, le docteur Tainey explique que le code éthique exigeant est destiné à servir de fondation suffisamment forte pour la vie du yoga supérieur. Comment souligner l'importance de cette fondation suffisamment forte? Voici un de mes diamants tiré de son livre « La science du yoga ». Ce code éthique ne traite pas des aberrations superficielles et des échecs de la nature humaine, et ce n'est pas son but de faire un individu bon, social et respectueux des lois. Il va jusqu'au roc de base de la nature humaine et y pose la fondation de la vie du yoga de façon à ce qu'elle puisse supporter l'énorme poids du gratte-ciel qu'est en vérité la vie du yoga. Il va, c'est-à-dire le code éthique, va jusqu'au roc de base de la nature humaine et y pose la fondation de la vie du yoga de façon à ce qu'elle puisse supporter l'énorme poids du gratte-ciel qu'est en vérité la vie du yoga. Les enseignements qui se réfèrent à la vie spirituelle proprement dite exigent un effort désigné sous des noms qui peuvent bien décourager tous, sauf les plus résolus, sacrifice, abandon complet à la volonté divine, destruction de la personnalité. L'enseignement se trouve partout, et partout il s'exprime dans les termes les plus sévères. Dit la voix du silence, abandonne ta vie si tu veux vivre. Abandonne ta vie si tu veux vivre. Et encore, le soi de matière et le soi de l'esprit ne peuvent jamais se rencontrer. L'un doit disparaître, car il n'y a pas place pour deux. Avant que l'esprit de ton âme puisse comprendre, le bourgeon de la personnalité doit être écrasé et le ver des sens détruit sans résurrection possible. Pour le chrétien qui a bien étudié les enseignements de l'Évangile, il n'y a rien ici qui ne soit déjà connu. En vérité, dit Jésus à ses disciples, dans l'Évangile selon saint Jean, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Pendant longtemps, je n'avais pas compris comment le grain, une fois mort, put porter fruit. Il s'agit de la balle du grain. Si cette balle reste entière, la future plante ne trouvera pas moyen d'en sortir. La vie de cette plante dépend de la destruction de la balle. Il en est de même dans la vie de l'homme. Si la personnalité, le petit soi, ne meurt, le véritable soi reste incapable de se manifester. Pour que ce soi, on écrit avec majuscule, puisse se manifester, il faut que la personnalité soit détruite. Abandonne ta vie si tu veux vivre. Tout cela, vous l'avez déjà dans les vers de votre poète Jean Lahore, et je cite la première strophe d'un de ses sonnets. Sache que les héros, les saints, tu les imites en détruisant en toi l'égoïsme d'abord. Meurs à toi-même, afin de vivre sans limite, toute âme, pour grandir, doit traverser la mort. Dans un des livres sur le mysticisme de l'auteur bien connu en Angleterre pour ses études importantes sur la voie mystique, Evelyn Underhill, je trouve ce commentaire, je traduis à ma façon. L'homme, empêtré par des forces et des instincts, adapté à la vie qu'il est en train de laisser derrière lui, est candidat à une nouvelle carrière plus élevée à laquelle il ne s'est pas encore adapté. De là, le besoin de cet ascétisme, cet entraînement de l'athlète, adopté par tous les peuples et toutes les religions comme le prélude à la vie mystique. Passons maintenant à la loi. En parlant des conditions que doit remplir tout aspirant à la connaissance, il préfère ici le mot « appréhension » de la réalité unique, Huxley pose la question. Vous vous rappelez, j'espère, ce qu'il a déclaré à cet égard. La nature de cette réalité unique est telle qu'elle ne peut être appréhendée directement et immédiatement si ce n'est par ceux qui ont élu de remplir certaines conditions. Ensuite, la question. Pourquoi en est-il ainsi? Et il répond lui-même, nous n'en savons rien. C'est simplement là l'un de ces faits que nous sommes contraints d'accepter, qu'il nous plaise ou non. Il aurait bien pu ajouter, la nature tout entière est régie par la loi. Cette loi immuable, universelle, inébranlable, qui est l'essence même de l'existence. La lumière de l'Asie, ce magnifique récit en vers de la vie et l'enseignement du Bouddha de Sir Edwin Arnold, j'ai trouvé la traduction française, mais il faut apprendre l'anglais pour apprécier toute sa beauté, ça vaudrait la peine. Dans ce livre, on parle de cette loi dans les termes suivants. Telle est la loi qui se meut vers la justice, que personne ne peut éviter ou arrêter. Son cœur est l'amour, sa fin est la paix et l'exquise perfection. Obéissez. Pour ceux d'entre vous qui ont fait l'effort pour apprendre l'anglais, je ne peux pas vous priver de la version anglaise. Such is the law which moves to righteousness, which none at last may turn aside or stay. The heart of it is love. The end of it is peace and consummation sweet. Obey. À l'époque où Madame Blavatsky préparait son travail d'éclairer le monde intellectuel occidental avec quelques rayons de lumière théosophique, un conflit faisait rage entre les intérêts statiques et conservateurs de la religion contemporaine et les puissantes forces de la science matérialiste. Il lui fallait entrer dans la lutte afin d'ouvrir le chemin aux enseignements occultes. Tout d'abord, afin de démontrer que la théosophie n'avait rien à voir avec les superstitions et les croyances peu logiques et parfois absurdes de la religion populaire, elle dut souligner que selon la théosophie, il n'existe rien hors de la portée de la loi universelle. Donc, dans sa première tentative de résumer les propositions fondamentales de la philosophie orientale, elle déclare « Il n'y a pas de miracle ». Quel joyau étincelant que cette simple phrase « Il n'y a pas de miracle ». Tout ce qui a lieu est le résultat de la loi, loi éternelle, immuable, toujours active. Or, cette loi qui régit les étoiles, qui régit la naissance et l'évolution de l'univers, régit aussi les moindres détails de la vie de l'homme. Nous l'étudions dans nos textes théosophiques sous le nom de karma. À ce propos, Madame Blavatsky cite, con approbation évidente, une œuvre scientifique de l'époque. Elle veut expliquer ce que sont les lipikas, les archivistes ou analystes, dit-elle, qui impriment sur les tablettes de la lumière astrale, invisible pour nous, le registre fidèle de chaque action et même de chaque pensée de l'homme, de tout ce qui fut, est ou sera jamais dans l'univers phénoménal. Ensuite, prévoyant le scepticisme des hommes de science, elle ajoute « Les archives éternelles ne sont pas un rêve fantastique, car nous rencontrons les mêmes enregistrements dans le monde de la matière grossière. » Ici, comme exemple, elle cite un certain Dr. Draper, homme de science et auteur de plusieurs livres scientifiques. Il avait fait des recherches sur la chimie appliquée à la photographie, et il se réfère, dans le passage cité par Madame Blavatsky, au procédé photographique assez nouveau à l'époque qui nécessitait l'emploi de plaques de verre rendues sensibles par une solution d'iodure d'argent. La plaque retient invisible les images qui s'y impriment. De même, la lumière astrale retient nos actes et nos pensées. Ce qui m'a frappé tout d'abord n'est pas à propos de l'exemple, mais le langage de l'auteur. On aurait dit que c'est un poète qui l'a écrit. Voici mon nœud d'émeraude que j'ajoute à l'inventaire de mes trésors. Une ombre ne tombe jamais sur un mur sans y laisser une trace permanente qu'on pourrait rendre visible en se servant d'un procédé approprié. Les portraits de nos amis, les paysages, peuvent être cachés de l'œil dans la surface sensible, mais ils sont prêts à apparaître aussitôt qu'on y applique le réactif nécessaire. Un spectre est caché sur la surface argentée ou cristalline, jusqu'à ce que, par notre nécromancie, nous puissions le faire apparaître dans le monde visible. Sur les murs de nos appartements les plus privés, là où nous nous flattons que le regard ne peut entrer, où nous croyons que notre intimité ne peut être profanée, il existe les vestiges de nos actes, les silhouettes de tout ce que nous avons fait. Je trouve cela bien remarquable. Un spectre est caché sur la surface argentée ou cristalline jusqu'à ce que, par notre nécromancie, nous puissions le faire apparaître dans le monde visible. Sur les murs de nos appartements les plus privés, là où nous nous flattons que le regard ne peut entrer, où nous croyons que notre intimité ne peut être profanée, il existe les vestiges de nos actes, les silhouettes de tout ce que nous avons fait. Est-ce un peu effrayant se rendre compte que la nature n'oublie jamais rien? Comme dit la Rubaïyat d'Omar Khayyam, le doigt se meut et écrit et poursuit son chemin. Ni tes prières, ni ta raison ne le font revenir pour annuler même la moitié d'une ligne, et tes larmes n'arriveront pas à en effacer un seul mot. Revenons à la lumière de l'Asie. Le coupable peut bien s'en effrayer. L'innocent n'a rien à craindre de cette loi invisible. Personne ne peut la mépriser. Il s'agit de la loi. Celui qui lui désobéit perd. Celui qui la sert gagne. Elle rétribue le bien caché par la paix et le bonheur, le mal caché par les souffrances. Elle voit en tout lieu et remarque tout. Soyez juste, elle vous récompensera. Soyez injuste et vous recevrez le salaire mérité. Elle ne connaît ni la colère ni le pardon. Ses mesures sont d'une précision absolue. Sa balance est infaillible. Le temps n'existe pas pour elle. Elle jugera demain ou longtemps après. Ce même enseignement sur la loi du karma se trouve aussi dans le second fragment de la voie du silence. C'est pour le disciple résolu une doctrine d'espérance, de confiance en cette loi infaillible. Apprends, dit la voix, que pas un effort, même le plus petit, dans la direction bonne ou mauvaise, ne peut s'évanouir du monde des causes. Même la fumée dispersée ne reste pas sans trace. Tu peux créer en ce jour tes chances pour ton lendemain. Dans le grand voyage, le cycle des existences, les causes semées à toute heure portent chacune sa moisson d'effets, car une rigide justice gouverne le monde. D'une puissante poussée d'action qui jamais ne se trompe, elle apporte aux mortels des vies heureuses ou malheureuses, progéniture karmique de toutes leurs pensées et actions antérieures. Et maintenant, la devise de la société théosophique. Il n'y a pas de religion supérieure à la vérité. Mais quelle est cette vérité? Connaître les enseignements véridiques est un pas important, voire indispensable. Mais pour que la connaissance ait de la valeur, elle doit se transformer en expérience personnelle. Une connaissance simplement intellectuelle ne mérite pas d'être qualifiée de connaissance. C'est pour cela que la connaissance de la vérité n'est pas chose communicable, pas plus que le goût du citron à celui qui ne l'a jamais goûté. Entre les citations recueillies par Huxley dans son anthologie, il y en a plusieurs choisies dans les textes bouddhistes. Dans le chapitre sur la vérité, nous trouvons cette perle de sagesse sous la forme d'un paradoxe. ce qui est connu comme étant l'enseignement du Bouddha n'est point l'enseignement du Bouddha. Et une autre citation explique: la vérité n'a certes jamais été prêchée par le Bouddha, attendu qu'il faut en avoir conscience à l'intérieur de soi-même. Comme pour souligner la leçon, l'auteur nous offre un petit extrait délicieux du livre de Singe. Écoutez ceci, vociféra Singe. Après tout le mal que nous avons eu à parvenir ici à partir de la Chine, et après que vous eûtes ordonné tout spécialement que les Écritures nous fussent données, Ananda et Kashyapa ont fait une remise frauduleuse des marchandises. Ils nous ont donné des copies blanches à emporter. Je vous le demande, à quoi cela peut-il nous servir? Inutile de crier, dit le Bouddha souriant. En fait, ce sont des rouleaux blancs comme ceux-là qui sont les écritures véritables. Mais je vois très bien que les gens de la Chine sont trop sots et trop ignorants pour le croire, de sorte qu'il n'y a d'autre solution que de leur donner des copies sur lesquelles il y a quelque chose d'écrit. Je crois entendre la voix de Krishnamurti approuver cette histoire. Parlons maintenant du gourou. Il paraît que, d'après un article qu'on m'a fait voir avant-hier dans un de vos journaux, il y a en France, comme en Angleterre et en beaucoup d'autres pays, une épidémie de sectes fondées et dirigées par des soi-disant gourous. Ces gourous, tout en enseignant quelques-unes des vérités de la philosophie ésotérique, arrivent quand même à s'acheter des châteaux et à mener une vie assez loin de l'ascétisme. Tout comme les mots yoga, karma, nirvana, le mot gourou est entré dans le vocabulaire des peuples européens. Gourou veut dire tout simplement celui qui enseigne. On me pose de temps en temps la question: pour faire des progrès dans la voie spirituelle, est-il nécessaire d'avoir un gourou? Quelle est la fonction du gourou? Au cours de cette semaine, pendant que je triais quelques vieux papiers, j'ai trouvé une vieille feuille sur laquelle j'avais écrit, je ne sais pas quand, et je ne sais pas non plus l'origine de ce que j'avais écrit, ces quelques mots sur le gourou. La fonction d'un gourou est de se rendre superflu. En d'autres termes, la tâche du gourou est d'apprendre aux disciples à se passer de lui. Cela est sûrement vrai. Mais il faut quand même un gourou pour que le disciple apprenne à s'en passer. Je fais une paraphrase d'un commentaire de Huxley sur une écriture bouddhiste. Si nous prenons trop au sérieux les paroles des grands instructeurs, nous perdons notre chemin dans une forêt verbale. Mais si nous ne les prenons pas suffisamment au sérieux, nous resterons toujours là, sans même nous douter qu'il y a un chemin à perdre. Le gourou, en effet, sert de poteau indicateur. Mais quant au pèlerinage, chacun doit l'entreprendre pour lui-même. L'affirmation qui caractérise plus que tout autre la philosophie ésotérique est celle qui se rencontre partout dans les écrits védantiques: tu es cela. l'affirmation de l'identité de l'atman à Brahman. Celui que Madame Blavatsky considère le plus grand initié qui ait vécu dans les âges historiques, le grand successeur de Bouddha, Sri Shankaracharya, place cette vérité au centre même de son œuvre, traduite en français sous le titre « Du plus beau fleuron de la discrimination », mais on me dit qu'on aurait dû mettre « Du discernement », mais je ne peux pas changer dans le titre d'un livre qui a déjà paru. Comment faire comprendre cette identité à ceux qui cherchent le chemin de la libération, le chemin de la réalisation du soi? Voici comment il s'y prend. D'abord, il expose l'enseignement méthodiquement, tout comme un professeur de lycée, détaillant les corps, les gaines, selon la traduction, dont s'est revêtu le soi suprême et avec lesquels il s'identifie. La leçon, répétée d'abord selon la Mandukya et ensuite selon la Taittiriya, aboutit à la conclusion que tout ce non-soi doit être repoussé afin de réaliser le soi réel. Jusqu'ici, le maître fait appel au raisonnement, au pouvoir intellectuel du disciple, afin de le conduire au point où le raisonnement ne servira plus. C'est alors qu'il lui indique le chemin de la méditation qui dépasse toutes les opérations du mental et qui seul est capable d'ouvrir la porte à la réalisation finale. Or, le disciple du plus beau fleuron est un disciple modèle. Il écoute les enseignements du gourou et il suit ses conseils. À la différence de combien d'entre nous qui lisons, écoutons, tout en nous bornant à imaginer comme la libération doit être belle, mais en remettant les efforts nécessaires à des vies futures. À prendre au sérieux les conseils de tes saints, mais pas encore, s'il vous plaît. Il n'en est pas de même avec le disciple du plus beau fleuron. Il écoute avec tout son être l'appel du gourou. Et toi aussi, ô mon disciple, fais usage du discernement, reconnais la plus haute vérité, la nature réelle du soi et félicité sans mélange, chasse l'illusion qu'a créée ton mental, rends-toi libre, sors de ton rêve, élève-toi à l'état d'illumination où la condition humaine trouve son accomplissement. Lorsque ton mental aura été réduit au silence, contemple la vérité du soi par l'œil intérieur que la réalisation a dessillé. Si tu te rappelles à ce moment la pleine et entière signification de l'enseignement védantique, et ici, le traducteur explique que cet enseignement se résume dans les mots « et cela, tu l'es, toi aussi ». Si tu te rappelles à ce moment la pleine et entière signification de l'enseignement védantique que t'a transmis ton gourou, le doute jamais plus ne pourra t'effleurer. Le disciple écoute. Il se rappelle la pleine et entière signification de ces mots et par conséquent, parce qu'ici aussi nous sommes dans une région où opère cette même loi qui gouverne les étoiles, par conséquent, et je cite le livre, l'œuvre de Sri Shankaracharya, elle vient enfin cette heure bénie où le disciple qui a maîtrisé ses sens et concentré son mental s'établit inébranlablement en l'atman. Dans cette œuvre de Sri Shankaracharya, il y a une telle richesse de joyaux qu'il est difficile d'en choisir quelques échantillons. Je choisis d'abord quelques versets d'entre les 10 méditations offertes par le gourou à son disciple. Il vient de lui démontrer que logiquement, s'il n'existe qu'une seule chose, cette unique réalité, Brahman, il s'ensuit que l'homme lui-même est Brahman. Ces exemples tirés de la vie contemporaine sont des plus simples. La leçon qu'ils enseignent n'en est pas moins la plus profonde. Toutes les modifications de l'argile, jarre, cruche, pot, etc., que le mental tient pour réel, ne sont effectivement qu'argile et rien d'autre qu'argile. Tout cet univers qui procède de Brahman, l'unique réalité, est Brahman lui-même, Brahman sans plus. C'est parce que rien n'existe hormis Brahman, c'est parce que cela est la seule réalité, c'est parce que cela est notre véritable soi que tu es toi-même ce suprême Brahman, l'un sans second. C'est très beau entendre dire ce fait par un voyant, un maître de sagesse, tel que Sri Shankaracharya. Mais pour arriver à la connaissance directe de ce fait, à la réalisation de notre identité avec Brahman, le soi universel, il faut la méditer. Ici, quelques versets de la méditation indiqués par le gourou à son disciple. Ce qui est par-delà les castes et les croyances, par-delà la famille et le lignage, ce qui est dénué de nom et de forme, ce qui outrepasse le bien et le mal, ce qui transcende l'espace, le temps et les objets d'essence, c'est Brahman et tu es ce Brahman. Médite donc sur lui dans le lotus de ton cœur. Ce suprême Brahman que le langage n'atteint pas, mais que l'œil intérieur contemple en l'état d'illumination, ce pur Brahman dont la nature est intelligence absolue, existence sans commencement et sans fin, c'est Brahman. Et tu es ce Brahman. Médite donc sur lui dans le lotus de ton cœur. Ce qui n'est assujetti ni à la naissance, ni à la croissance, ni à la maladie, ni à la mort, ce qui est indestructible, ce qui est la cause par laquelle l'univers est projeté, maintenu et dissous, c'est Brahman et tu es ce Brahman. Médite donc sur lui dans le lotus de ton cœur. Ce qui ne cesse jamais d'être, exempt de tout changement, ce qui a la sérénité de l'océan, qu'aucune ride ne trouble plus, le soi qui se cache au plus profond de chaque créature, le soi qui est infini et immuable, c'est Brahman, et tu es ce Brahman. Médite donc sur lui dans le lotus de ton cœur. Or, le vrai gourou est celui qui a lui-même atteint la connaissance directe et immédiate de la réalité suprême vers laquelle il dirige les pas du disciple. Il a atteint la Brahmanyana, la connaissance de Brahman. Il s'est noyé, pour ainsi dire, dans l'océan de Brahman. Et s'il insiste sur le fait que rien n'existe sauf Brahman seul, c'est qu'il est arrivé lui-même à l'union mystique. Il redescend, c'est une façon de parler, il redescend des plans supérieurs pour instruire son disciple. Mais de temps à autre, il y remonte et l'enseignement fait place à des chants d'extase, comme par exemple le chant de l'Atman, le chant de Brahman. Et ces chants pourraient aussi nous servir à nous de base à nos propres méditations. Voici des versets du chant de Brahman. Seul existe Brahman, l'un sans second, le Brahman infini, sans commencement et sans fin. En lui, il n'y a pas trace de dualité. Seul existe Brahman, l'un sans second, infini, éternel, omniprésent. En lui, il n'y a pas trace de dualité. Seul existe Brahman, l'un sans second, plus subtil que le plus subtil, absolu et pur. En lui, il n'y a pas trace de dualité. Seul existe Brahman, l'un sans second, la suprême réalité qui resplendit de son propre éclat, qui est pureté et intelligence absolue. En lui, il n'y a pas trace de dualité. Et pour aujourd'hui, mon coffret est épuisé.